Vous écoutez France Culture. Tout de suite, le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle affaire politico-financière sur le devant de la scène. Le parquet de Paris a ouvert hier une enquête préliminaire sur des dons reçus par le parti présidentiel La République En Marche. 144 000 euros dont on ne connaît pas l'origine.
Au cinquième jour de la mobilisation des Gilets jaunes, quelques blocages de dépôts pétroliers et d'axes routiers subsistent encore ce matin. La situation reste en revanche tendue à La Réunion, théâtre d'une nouvelle nuit de violence.
Invité à écouter Emmanuel Macron ce soir à l'Elysée, nombre de maires qui se disent fatigués semblent traîner les pieds, partagé entre courtoisie républicaine et déception après la décision du chef de l'État de ne pas s'exprimer dans le cadre de leur congrès qui se tient jusqu'à jeudi, porte de Versailles. Parce qu'il estime, oui, sa commune de Grande-Synthe, particulièrement exposée au changement climatique. Le maire écologiste Damien Carême a lui engagé un recours gracieux auprès de l'État pour inaction en matière de lutte contre le changement climatique. Enfin, le Sud-Coréen Kim Jong-un, soutenu par les États-Unis, élu président d'Interpol hier. Le candidat russe partait pourtant favori. À 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Vous savez qu'on évoque souvent dans vos journaux également, Thomas Cluzel, les grandes découvertes des archéologues. Ça va du berceau de l'humanité à Lucie. On découvre, on redécouvre. Aujourd'hui, on reçoit l'archéologue Jean-Paul Demoule pour un ouvrage somme co-écrit, co-dirigé, ouvrage collectif. Sur le rôle de l'archéologie, l'archéologue peut-il modifier le cours de l'histoire? Nous lui poserons la question à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. Quand l'actualité semble chaque jour devoir se décliner au rythme des scandales et autres affaires, certains parmi les plus philosophes y trouveront peut-être là une preuve irréfutable, voire lénifiante du bon fonctionnement de la justice et de son indépendance. Sauf qu'à l'ère du soupçon, d'autres pourraient tout aussi bien y déceler un indice supplémentaire de nature à entretenir et même conforter cette présomption tenace de corruption qui pèse tant sur les hommes d'affaires que sur les responsables politiques. Toujours est-il qu'hier encore, la question s'est donc de nouveau posée avec une acuité toute particulière en apprenant l'ouverture par le parquet de Paris d'une enquête préliminaire sur l'origine non identifiée de 144 000 euros de dons reçus en 2017 par La République En Marche. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Alors l'enquête a été confiée à la police anticorruption de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales et elle fait suite à un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne.
Effectivement, c'était la semaine dernière, la Commission nationale des comptes de campagne dénonçait au parquet de Paris des faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur la transparence de la vie publique. Pour parler plus concrètement, il y a un doute sur 144 000 euros de dons perçus par le parti présidentiel en 2017. Il s'agit de chèques, de virements ou encore de paiements électroniques. Et la commission n'est pas parvenue à en tracer l'origine. C'est embêtant car identifier les donateurs, c'est nécessaire pour vérifier que le parti respecte la loi, à savoir un don maximal par personne de 7 500 euros. Il va donc y avoir une enquête pour savoir d'où vient cet argent. 144 000 euros, ça n'est pas une somme considérable, mais s'il y avait infraction, les peines prévues sont lourdes. On peut être condamné à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Cela concerne à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Autre question soulevée par cette enquête, la commission constate des anomalies pour La République En Marche. Or, cette même commission a validé les comptes de campagne d'Emmanuel Macron et LREM fait sans doute partie de ceux qui ont participé à la campagne du candidat. Bref, on valide un compte de campagne avant de s'intéresser aux donateurs du parti qui a participé à la campagne. On voit aujourd'hui les limites de cette logique.
Merci Antoine Maret. Alors cette affaire pose la sempiternelle question du contrôle à la fois des comptes de campagne mais aussi des comptes des partis politiques et pourtant des lois existent en la matière. Dès lors, comment se fait-il que des anomalies persistent, autrement dit que les règles soient encore susceptibles d'être contournées? Vous avez joint Antoine Maret, Éric Halte, il est le vice-président d'Anticor.
Il y a là quelque chose de paradoxal mais ça fait partie des vices dans l'architecture du système de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques. La Commission n'a jamais une vision panoramique des choses. Elle valide d'abord les comptes de campagne, elle doit le faire assez rapidement, dans les 6 mois, et ensuite, à une périodicité différente, elle contrôle les comptes des partis. Or, les partis sont les seules personnes morales qui peuvent financer ou qui peuvent accorder des prêts aux candidats. Donc, il y a là un problème qu'il faudra résoudre un jour, mais un problème qui tient à l'architecture même du système, un vice de fabrication, un vice de construction qu'il faudra bien songer à remédier. Peut-être en donnant plus de moyens à la commission des comptes de campagne et en lui permettant une vision panoramique, c'est-à-dire en lui permettant d'avoir les moyens au moment où elle contrôle les comptes individuels des candidats, en lui permettant à ce moment aussi d'être clair sur la façon dont le parti a financé ou n'a pas financé son candidat. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas fait.
144 000 euros, ce qui frappe déjà, c'est la faible importance de cette somme.
Oui, alors en réalité, le problème, c'est de savoir d'où ça vient. On ne peut pas individuellement financer des partis politiques au-delà de 7 500 euros. En revanche, les partis politiques peuvent très bien vendre des gadgets lors des meetings. Le Parti communiste vendait du muguet le 1er mai et récoltait ses sommes. Encore faut-il qu'il y ait une certaine transparence. Et c'est ça le problème, parce que s'il n'y a pas de transparence, si on ne sait pas d'où ça vient, on peut aussi soupçonner que c'est un don individuel de 144 000 euros, ce qui serait évidemment illégal. Moi, je ne spécule pas sur les raisons qui permettent ou non d'expliquer ces 144 000 euros. Peut-être sont-ils justifiés. Effectivement, s'ils ont vendu des gadgets, ils justifieront l'achat des gadgets et les conditions dans lesquelles ceux-ci ont été vendus. Toujours est-il que jusqu'à présent, ils n'ont pas répondu à la commission des comptes de campagne de façon satisfaisante. Sinon, j'imagine que la commission des comptes de campagne n'aurait pas donné ce dossier au parquet en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale. Donc il faudra aller un peu plus loin. C'est au minimum, si les faits sont constitués, c'est au minimum un manque de professionnalisme. On verra ce qu'on peut dire quand on en saura plus sur ce dossier.
Voilà, Eric Alt, vice-président d'Anticor, joint donc au téléphone par Antoine Marette. Au cinquième jour de mobilisation des Gilets jaunes, quelques 7000 manifestants étaient toujours mobilisés ce matin dans un peu plus de 300 lieux, dont des dépôts pétroliers, des plateformes logistiques, mais aussi des péages d'autoroutes. Et puis, alors que circulent déjà des appels à un nouveau grand rassemblement samedi prochain dans la capitale, le gouvernement a lui durci un peu plus encore le ton hier en accusant notamment l'opposition d'attiser la colère populaire, mais aussi en pointant du doigt, je cite, une radicalisation et des actes de violence graves et répétés. Alors c'est le cas en particulier sur l'île de la Réunion, théâtre, c'est vrai, depuis samedi dernier d'une flambée de violence urbaine, mais qui, de l'aveu même de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, sont aujourd'hui commises par des bandes de jeunes qui n'ont rien à voir avec les Gilets jaunes. Quoi qu'il en soit, le gouvernement a choisi d'y répondre la nuit dernière, non seulement en instaurant un couvre-feu dans la moitié des communes, mais aussi en gelant la TSCC, la taxe spéciale sur la consommation de carburant. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors cette concession de l'État est-elle susceptible de nourrir des espoirs du côté des Gilets jaunes en colère en métropole? En clair, est-ce que l'exécutif est en mesure de geler l'équivalent de cette taxe en vigueur sur l'île, la fameuse TICPE?
Eh bien cette augmentation de taxe qui a été annulée pour la Réunion est une augmentation qui avait été décidée par la Réunion, en l'occurrence le Conseil régional, puisque l'île est à la fois un département et une région. On a donc là affaire au gel d'une taxe locale qui avait été décidée localement dans les départements d'outre-mer. En effet, en lieu et place de la TICPE, c'est cette taxe spéciale sur le carburant qui s'applique, dont le produit se répartit entre les budgets de la région, du département, des communes et des communautés de communes qui ont une politique spécifique de déplacement urbain. Il n'y a pas de TVA applicable sur le litre d'essence ou de diesel réunionnais. Et c'est le préfet qui plafonne le prix du carburant. La répartition de cette TSCC est donc de compétence régionale, sa fixation de compétence préfectorale. C'est tout cela qui a permis de prendre la décision de la geler. Ça n'est pas possible pour la métropole, à moins que le gouvernement ou sa majorité n'en prenne la décision. Et c'est toute la différence. Certes, le signal donné par la Réunion ne devrait pas plaire à l'État et il a fait déjà réagir des élus métropolitains comme Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France. Pour lui, tant que le cours du pétrole augmente, on devrait geler la TICPE. Quand il n'augmentera plus, alors seulement on pourra faire augmenter cette taxe. Mais cette décision réunionnaise n'ouvre théoriquement aucune brèche pour le gouvernement, dont le budget 2019, qui contient les augmentations de taxes sur les carburants, arrive en fin de processus législatif. À cela, il faut ajouter que l'île de la Réunion est dépendante énergétiquement à plus de 85% et que les violences également qui ont lieu en ce moment ont des racines bien plus larges que la simple augmentation des taxes sur le carburant.
Merci Anne-Laure Chouin. Toujours au chapitre de la crise de confiance, après les gilets jaunes, après les blouses blanches, les écharpes tricolores sont venues à leur tour hier s'ajouter à la liste des signes distinctifs de ceux qui aujourd'hui se sentent mal aimés. Les maires qui tiennent actuellement leur congrès annuel seraient rien de moins qu'en pleine fatigue psychologique, c'est en tous les cas ce qui ressort d'une étude du Cevipof rendue publique la semaine dernière. On y apprend notamment que la moitié des édiles n'auraient pas l'intention de briguer un nouveau mandat aux prochaines municipales ou quand les élus eux-mêmes se désintéresseraient de la politique. Alors pourquoi ? La réponse est peut-être à trouver dans un essai intitulé tout simplement « Le blues des maires » écrit par un sénateur élu des Landes, Éric Kerrouche, également chercheur au CNRS et que Stéphane Robert a eu l'occasion de rencontrer.
Si les maires ont le blues, explique le sénateur Éric Kerrouche, c'est que les citoyens sont de plus en plus exigeants, que les normes à appliquer sont de plus en plus complexes, que l'administration est de plus en plus tatillonne. Mais le plus grave, ajoute-t-il, c'est qu'il n'y a pas que les maires, les adjoints et les conseillers municipaux également rendent leur tablier, et ça depuis qu'on a transféré tout un tas de compétences communales aux intercommunalités.
Les démissions concernent les conseillers municipaux non conseillers communautaires, ceux qui ne vont pas à l'intercommunalité. Et ceux-là ont l'impression que tout se passe à l'intercommunalité et que, comme il y a eu beaucoup de décisions sur les intercommunalités en termes de compétences, en termes de périmètre, ils ont l'impression de ne plus être dans le cœur du réacteur. Et puis il y a tous les adjoints qui exerçaient des compétences liées au transfert et qui, eux aussi, se sentent démunis dans cette nouvelle organisation.
Il y a aussi un problème d'engagement politique au niveau local, en raison du fait que le rôle de maire est très chronophage, que c'est peu rémunéré et que rien n'est prévu pour concilier l'exercice d'un mandat avec une activité professionnelle.
La population des élus, et singulièrement celle des maires, ne représente pas la population française. Il y a beaucoup de retraités qui sont maires. 63% des maires qui ont plus de 60 ans au 1er janvier 2018. Ce n'est pas un problème en soi, parce que heureusement qu'il y a des retraités, parce que sinon le système local ne fonctionnerait plus. Mais moi je vais vous dire les choses différemment. Ça veut dire que les actifs ne peuvent pas s'engager. Tout simplement parce que le statut ne leur garantit pas.
La mise en place d'un véritable statut de l'élu, avec une rémunération décente et un accompagnement vers le retour à l'emploi en fin de mandat, sont les conditions, selon Éric Kerrouche, qui permettront de soigner le blues des maires et de redynamiser la vie politique locale.
Alors le blues des maires n'empêche pas certains de garder la foi dans leur mission. C'est le cas en particulier du maire de Grande-Synthe dans le Nord, Damien Carême, lequel vient d'engager un recours gracieux auprès de l'État pour inaction en matière de lutte contre le changement climatique. Sa commune, par ailleurs capitale française de la biodiversité, estime que l'État français, tout en se prévalant de son titre de champion du monde du climat, ne fait pas sa part du travail pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors dans sa démarche inédite en France, Damien Carême, maire écologiste, qui a réduit de 40% les émissions de gaz à effet de serre dans sa commune, est soutenu dans sa démarche par le cabinet d'avocats Lepage Huglot, Véronique Robérotte, adjoint Christian Huglot, qui porte cette action en justice.
C'est une commune qui est gravement menacée, si vous voulez. C'est une commune qui est construite sur des polders. Et vous avez la même problématique en cas de réchauffement climatique prévisible pour la fin du siècle. Hein, parce que ça peut se promener entre 20 et plus de 50 cm de montée des eaux. Et ces communes qui sont en général menacées par les eaux de façon permanente, ou alors la Hollande, puisque la Hollande a le tiers de sa surface sous le niveau de la mer, ce sont des communes qui sont en tête des risques sur le réchauffement climatique.
Que dites-vous dans ce recours ? C'est un recours contre l'État pour exiger quoi de la France ?
La France n'est pas responsable de la totalité du réchauffement climatique, nous sommes d'accord. C'est uniquement un problème de droit pur aussi. Est-ce que la France a une politique environnementale forte ? Est-ce qu'elle est cohérente au niveau français ? Est-ce qu'elle suit les objectifs européens ? Est-ce qu'elle est conforme à son droit interne ? Et dans ces conditions-là, elle doit respecter ses objectifs. Retrouver les objectifs de l'accord de Paris, et s'il n'y a pas satisfaction à cette demande gracieuse de révision de la politique environnementale et climatique de la France, la juridiction administrative sera saisie au bout de 2 mois de silence de l'administration.
Vous dites que ce sont des démarches qui se développent dans le monde entier, en fait, hein, qui attaquent des États, qui prennent des engagements internationaux, mais qui ne font rien dans la réalité, ou si peu.
Et il y a environ 1200 procès dans le monde, vous en avez environ 400 à 500 au minimum aux États-Unis, et ça c'est quelque chose qui se généralise parce que la société civile prend ses marques et mobilise ses troupes pour demander aux juges ce que les États ne font pas.
Voilà, Christian Huglot du cabinet d'avocats Lepage Huglot. Il répondait à Véronique Robérot. Renault a confié hier soir les rênes du groupe aux Losanges à un tandem composé de l'administrateur référent Philippe Lagayette, qui assurera la présidence du conseil d'administration, et du directeur général adjoint Thierry Bolloré, promu lui directeur général délégué. Le conseil d'administration du constructeur automobile, ébranlé par l'arrestation de Carlos Ghosn, n'a en revanche pas voulu destituer officiellement ce dernier de ses fonctions de PDG. Parce que les chances d'un retour à un processus politique seraient, dit-on, plus forte que jamais, l'émissaire des Nations Unies est attendu aujourd'hui au Yémen pour tenter de préparer des consultations de paix. Les différents acteurs de la guerre disent vouloir participer aux négociations pour un cessez-le-feu, même si leur volonté réelle de compromis reste sujette à caution. En particulier, les appels à l'accalmie sur le front militaire n'ont pas empêché, en l'occurrence, de violents combats dans le port stratégique d'Odeida. Et puis signe, une fois encore, de l'urgence de mettre fin à ce conflit, l'ONG Save the Children estime que quelque 85 000 enfants seraient morts de faim ou de maladie depuis l'intensification de la guerre entre avril 2015 et octobre 2018. Alors, parce que ce conflit yéménite attisé par l'Arabie Saoudite est en train de devenir l'une des pires catastrophes de l'histoire, forcer Riyad à mettre fin au massacre serait probablement la meilleure manière de prouver que l'assassinat de Jamal Khashoggi a changé la nature des relations des États occidentaux avec la monarchie wahhabite. Côté américain, tout d'abord, Donald Trump a non seulement déclaré hier vouloir rester un partenaire fiable de l'Arabie Saoudite, mais également précisé qu'il n'entendait pas annuler les contrats d'armement conclus avec Riyad. Reste désormais à savoir s'il justifiera éventuellement le maintien de son alliance avec la maison royale en réclamant par exemple en contrepartie la fin de la guerre au Yémen. Et puis, côté français, cette fois-ci, là, la question d'un possible marchandage, pragmatique pour les uns, répugnant pour les autres, ne se pose même pas tant le silence des autorités françaises est pesant. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Le président Emmanuel Macron doit recevoir d'ici quelques minutes le prince héritier d'Abu Dhabi, engagé aux côtés de l'Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen. On imagine que le sujet sera abordé, mais pour l'heure, Bertrand, force est de constater que Paris n'entend pas se désolidariser de son allié saoudien.
Oui, les réponses alambiquées, voire le silence assourdissant des autorités françaises traduisent un embarras certain dans un dossier à tiroir qui mêle stratégie diplomatique, intérêts militaro-industriels et droits de l'homme. Les déclarations les plus récentes sont celles avant-hier du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, promettant des sanctions très rapides en lien avec l'assassinat de Khashoggi. Pas de précision sur la nature de cette réaction, ni sur les personnes visées. Le ministre dit seulement qu'il souhaite toute la vérité ainsi que la désignation des circonstances et des responsables de ce crime. Toutefois, on imagine mal Paris se mettre à dos le tout-puissant MBS. La relation avec l'Arabie Saoudite étant qualifiée par le président Macron de partenariat de confiance qui serait stratégique et non commercial. Or, du commerce, il y en a pourtant avec Riyad, même si c'est vrai, la géopolitique pèse dans la balance. En matière d'armement, l'Arabie Saoudite est le deuxième client de la France qui lui a livré l'an dernier pour 1,380 milliard d'euros de matériel, d'où l'extrême réserve d'Emmanuel Macron dès lors que ce sujet est abordé. On se souvient de l'agacement du président de la République il y a un mois au salon Euronaval. Il avait refusé de répondre aux journalistes sur une suspension éventuelle des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Dossier d'autant plus sensible que ces armes pourraient être utilisées par les militaires saoudiens dans leur guerre au Yémen. Le conflit, vous l'avez dit, a déjà provoqué, selon les Nations Unies, une des pires crises humanitaires au monde. En avril dernier, lors de la visite à Paris du prince héritier saoudien, un déplacement du président Macron à Riyad avant la fin de cette année pour y signer des contrats avait été annoncé. Aujourd'hui, il n'en est visiblement plus question.
Merci Bertrand Galichet. Le bilan de l'attentat visant un rassemblement religieux hier à Kaboul s'est alourdi à 55 morts et au moins 80 blessés. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Les insurgés talibans ont d'ores et déjà démenti toute implication dans ce carnage qui visait un rassemblement de théologiens conviés pour célébrer la naissance du prophète Mahomet. Ils ont d'ailleurs condamné cet attentat suicide. C'est le grand dilemme des Nations Unies. Leurs initiatives sont souvent pleines de bonne volonté, mais elles n'ont souvent qu'une portée limitée. Et d'ores et déjà, il semble que le pacte de l'ONU sur les migrations ne fera pas exception. Hier, les gouvernements polonais et israéliens ont emboîté le pas aux États-Unis, mais aussi à l'Autriche et à la Hongrie, pour annoncer à leur tour qu'ils rejetteraient ce texte qui doit être signé en décembre. Direction à présent le Mexique, plus exactement à Tijuana, où l'arrivée graduelle de la caravane de migrants centra-américains impose un défi en matière d'organisation. Plusieurs milliers de migrants de différentes nationalités, et notamment des Mexicains, se trouvaient en effet déjà dans cette ville frontalière, dans l'attente de pouvoir entrer aux États-Unis avant même l'arrivée de la fameuse caravane. Or, tous les candidats à l'asile sont en mesure aujourd'hui de déposer une demande au poste frontière américain. Du coup, un système complexe de traitement des demandes par ordre d'arrivée a été mis en place par les migrants en coordination avec les autorités mexicaines et américaines, sauf que les temps d'attente se comptent en semaines, voire en mois. Et la situation ne devrait pas s'arranger puisque la deuxième partie de la caravane, 3500 centra-américains, devrait parvenir à Tijuana très prochainement. C'est une correspondance d'Emmanuel Stills.
Si vous avez le numéro 1400, vous revenez dans un mois. Au poste frontière de Chaparral à Tijuana, tous les matins, une foule se rassemble autour d'une liste et des tickets. Ces petits bouts de papier assignent un ordre de passage pour un entretien d'asile côté américain. Ce sont des migrants arrivés depuis longtemps qui se chargent de les distribuer aux nouveaux arrivants de la caravane de centre-américains. Johan Padilla, un jeune hondurien fraîchement arrivé à Tijuana, contemple anxieusement le ticket qu'il vient de décrocher. Il y a plus de 3000 personnes devant lui sur la liste, alors que 3000 autres sont sur le point d'arriver. Et pourtant, il y a des cris de joie. Les autorités américaines ont annoncé qu'elles recevraient 50 demandeurs d'asile ce mardi. Parmi eux, Carlos Ornelas, un Mexicain qui ne peut s'empêcher de craindre l'effet négatif de la caravane sur son propre sort.
Ils ont provoqué la construction d'un autre mur. Maintenant, il y a des barbelés partout sur la frontière. Ici, à Tijuana, les gens luttent pour qu'il n'y ait plus de mur. Et tout à coup, la caravane arrive et toute la sécurité s'intensifie. Ce n'est pas juste. Il y a un risque que les postes frontières ferment complètement et que toutes les demandes d'asile soient rejetées. Nous pourrions tous y perdre. Ce n'est pas juste.
Pour la caravane qui arrive alors que la file était déjà longue, des semaines d'attente se profilent à l'horizon.
Un reportage à Tijuana, au Mexique, signé Emmanuel Stills. Depuis que l'ex-président d'Interpol, lequel fait aujourd'hui l'objet d'une enquête pour corruption, a démissionné de ses fonctions, c'était début octobre, la question de sa succession avait donné lieu à une passe d'armes entre la Russie et les États-Unis. Plus exactement, quand Moscou soutenait la candidature d'un général russe, Washington lui préférait un concurrent sud-coréen. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Finalement, le bras de fer a pris fin hier et il s'est conclu en faveur des États-Unis.
Et oui, vous savez, les Américains ne voulaient pas qu'un Russe soit le patron de la police mondiale. Ils craignaient en effet que l'organisation devienne un outil politique au service du Kremlin. Interpol regroupe 192 pays dans le monde. Ils ne voulaient pas d'un Russe et ils l'ont fait savoir. Des sénateurs américains l'ont écrit dans une lettre ouverte qui a été rendue publique en expliquant que la Russie abusait déjà des procédures d'Interpol pour harceler ses opposants politiques. Ils ont été rejoints par le département d'État américain qui a souligné la nécessité d'élire quelqu'un qui défendra les valeurs de la police mondiale. Les Américains n'en voulaient pas et les Anglais non plus. Dans une conférence de presse organisée hier à Londres, un grand financier britannique ainsi que des dissidents russes ont pris la parole pour dire tout le mal qu'ils pensaient du candidat russe à la présidence d'Interpol en expliquant que s'il était élu, il ferait n'importe quoi pour plaire au Kremlin. Ni aide des Américains, ni aide des Anglais, mais on peut ajouter à la liste aussi le lignette des Ukrainiens ou celui des Lituaniens qui ont même menacé de se retirer d'Interpol en cas d'élection russe. De son côté, la Russie a bien tenté de réagir face à ces procès d'intention d'une part des pays membres de l'organisation. Moscou a défendu son candidat en indiquant qu'il n'y avait pas matière à s'inquiéter, qu'il possédait toutes les qualités nécessaires pour le job. Mais cela n'a pas suffi. Visiblement, le poids politique des Américains était supérieur à celui des Russes et c'est finalement le Sud-Coréen, vous l'avez dit, Kim Jong-un, qui a été élu pour un mandat de 2 ans. Il faut savoir que la bataille qui vient de se jouer est surtout une bataille d'influence et d'affichage, car le président d'Interpol a un rôle essentiellement honorifique, le pouvoir de l'organisation étant détenu par son secrétaire général, qui est à l'heure actuelle un Allemand.
Merci Nathanaël Charbonnier. Comme attendu, la Commission européenne a décidé ce matin de rejeter à nouveau le projet de budget italien pour 2019, ouvrant de fait la voie à une première mesure disciplinaire contre Rome. Et puis, la première ministre britannique Theresa May se rend, elle, aujourd'hui à Bruxelles pour y rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans le cadre des discussions en cours sur l'avenir des relations entre l'UE et le Royaume-Uni après le Brexit. On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui. À l'exception de l'Alsace, le ciel restera chargé du nord-est jusqu'au pourtour méditerranéen. Et puis sur la moitié ouest du pays, cette fois-ci, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Les températures, elles seront comprises généralement entre 3 et 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.